Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue dans Une Heure en Série, saison 2, épisode 17, Une Heure en Série. L'émission, je vous le rappelle, qui décrypte et analyse toute l'actualité des séries télé, toutes chaînes confondues, et vous permet, face à un interminable confinement, de ne pas sombrer dans le plus profond désarroi en vous interrogeant sur qu'est-ce qu'on va regarder ce soir. Eh bien, nous sommes là, un phare dans la nuit, pour vous conseiller les meilleures séries du moment. D'ailleurs, ce soir, nous parlerons instinct maternel et apocalypse religieuse. Oui, comme ça, c'est un peu flou, mais vous allez comprendre, avec Raised by Wolves sur Warner TV, Fille perdue et île mystérieuse avec The Wilds sur Prime, et enfin Couple à trois, ça je sais que ça va inspirer beaucoup de mes collaborateurs, et Famille décomposée avec El Embarcadero en DVD ainsi que sur Salto.
Une heure en série, Xavier Le Herpeur.
Et avec ce soir un menu de fête, j'allais dire un plateau de rois et de choix, bien évidemment, à quelques jours de Noël, plus que 5 dodos, donc vous avez intérêt très très sage. Christine Haas, qui continue de travailler d'ailleurs, bonsoir Christine.
Bonsoir Xavier.
Elle est studieuse, vous méritez bien que le Père Noël vienne vous voir, vienne
Merci,
vous visiter.
Merci,
Marianne Lévy.
Bonsoir Xavier.
Marianne. Et évidemment notre Père Noël à tous, il a même une petite chemise de...
Bonsoir à toutes et à tous.
Une petite chemise à carreaux,
oui, voilà.
Voilà, ça sent l'hiver, ça sent comme ça... je ne sais plus ce que j'allais dire, mais oui. Benoît Lagan, bien sûr, du 5-7, de Mathilde Munoz et de Télématin. Alors, il y a du courrier, un courrier qui nous permet de vous annoncer que la semaine prochaine, nous vous révélerons le top 10
ah oui.
des séries honteuses. Alors, il y en a qui ont souhaité voter, mais un petit peu tardivement. Donc, le docteur Antoine Désé, et oui, on n'a pas n'importe qui quand même comme auditeur, a voté pour Stargate SG-1, K2000 et L'Homme qui tombe à pic.
Ah.
Totalement assimilé, nous dit-il, à tort, à L'Homme qui valait 3 milliards, car petit, je ne faisais pas vraiment la différence entre les deux séries, les titres étant tellement proches, et Major, l'archétype du héros américain tout puissant.
Oui,
c'est L'Homme qui tombe à pic, on aime bien, nous,
beaucoup.
Ici. Hein. Alors, Maxime Cordet, j'aurais pu voter comme lui, nous propose Gossip Girl, La Casa de las Flores et Elite.
Ah oui.
Pas mal quand même. Et Valérie Durand, alors là, je pense que c'est un pseudo pour moi-même, hein. Elle a voté pour La Demoiselle d'Avignon pour 2 ans de vacances. Vous vous souvenez de 2 ans de vacances de Jules Verne? Qu'est-ce que c'était bien. Et Petit Déjeuner compris, je crois que tout le monde a oublié Petit Déjeuner compris. Mais qu'est-ce que c'était bien. La meilleure, le meilleur vote en tout cas, nous vient de Suisse. Cher Xavier, eh bien voilà, je ne vais plus le cacher, ma série doudou, c'est RuPaul's Drag Race. Comment ne pas tomber en amour avec ces candidats de toutes formes et horizons qui manient la vulgarité, l'autodérision, le drama et le fard à paillettes, avec plus ou moins de talent assumé. On dirait un peu nous quand même, hein, surtout pour le fard à paillettes quand même. Quel régal, et puisqu'il faut nommer 3 séries, je vais vous donner mon tiercé gagnant, RuPaul's Drag Race, RuPaul's All-Star et RuPaul's Secret Célébrité. Il y a un petit tropisme quand même. Merci beaucoup, chère Cécile de Suisse, d'avoir voté de façon aussi éclectique, je veux dire, et diversifiée, pour donc les séries honteuses. Plus qu'une semaine, là c'est 6 dodos, 7 dodos, pour découvrir eh bien, quelles sont les séries refuges dans lesquelles on adore se lever, surtout en ces périodes de froid, de frima et de confinement. Mais pour l'instant, l'heure est au premier débat et nous allons commencer avec cet accent anglais que le monde m'envie quand même. C'est pas la peine de faire oui de la tête, Marianne Lévy, quand même. C'est très désagréable. Raised by Wolves, une série américaine
Bravo.
De 10 épisodes. Oui, les applaudissements, c'est quand vous voulez. Hein. Disponible sur Warner TV, 22e siècle. C'est un petit peu compliqué, donc prenez des notes. 2 androïdes, mère et père, atterrissent sur une planète peu engageante, dénommée Kepler K22. Ils ont pour mission d'élever des enfants humains, malgré un environnement hostile et dangereux, sinon ce serait pas drôle. Mais la survie de l'espèce humaine dépend d'eux, puisque la Terre a été détruite. Bah ouais, pas de peau quand même. Dans le même temps, entassés dans un vaisseau qui flotte dans l'espace, les ultimes rescapés de la fin de notre planète se sont tournés vers une religiosité extrémiste et fanatique, au nom de laquelle ils sont prêts à toutes les exactions. Une série qui questionne les vertus de l'éducation, s'interroge sur notre instinct de survie et de transmission, tout en disséquant ce qui caractérise la spécificité de notre humanité, le pire comme le meilleur.
Does anyone know the story of the three little pigs? The first little pig built a house out of straw. The second little pig built a house out of sticks. But the third little pig, he built a house out of stone. One day, a big bad wolf came along and said, little pig, let me in. Or I'll huff. And I'll puff. And I'll blow your house in.
Non, je crois que c'est la version la plus flippante du conte pour enfants, Les Trois Petits Cochons. Déjà, c'est pas joyeux, mais alors là, je dois t'avouer que on en tremble encore. Allez, je me relance une deuxième fois. Raised by Wolves.
Bravo.
Ouais, je sais. Créé pour HBO. Merci, Alain. Vous réagissez bien. Par Aaron Gizikowski, scénariste au cinéma de Prisoners, de Denis Villeneuve et d'une nouvelle version du récit carcéral Papillon qui avait été réalisé par Michael Nauer. Une série pour laquelle Ridley Scott a officié en tant que producteur délégué et réalisateur des deux premiers épisodes. Son fils, Luke Scott, a d'ailleurs pris le relais de papa derrière la caméra pour la suite de la série avec la géniale Amanda Colling quand même dans le rôle de mère, actrice ténébreuse qui vient du Danemark. Alors, côté de la presse, Le Figaro évoque une ambitieuse et grandiose fresque de science-fiction sur fond d'extrémisme religieux. Pour les Arocs, cette série futuriste tend à s'enliser et le JDD parle de deux premiers épisodes ébouriffants. Je n'ai pas dû voir la même série. Christine Haas.
Eh ben, moi non plus. Hein. C'est vrai qu'on est au départ dans un récit biblique hein, qui s'engage sur les thématiques de la foi, de l'éducation, de l'engagement parental, des valeurs pacifistes. Bon, la série a été tournée en Afrique du Sud. A priori, c'est un beau pays. Mais le résultat est quand même un truc monochrome, blanc, beigeasse, moche de jour. Gris, bleu, également moche de nuit. Et dans chaque camp, donc, on a un couple hein, prêt à se sacrifier pour élever un enfants dont ils ne sont pas les parents biologiques. Alors, côté androïde, Mother évoque vaguement le robot de Metropolis. Elle change Dieu à volonté, prend une posture christique et pousse un cri létal quand elle part au combat. Bon. Father est plus sympa avec son stock de blagues nulles intégrées à son programme. Bon, tous les deux, ils rêvent de créer une société athée pacifiste, mais je dois dire que leurs angoisses sur leur capacité parentale ont du mal à nous toucher. Côté humain, c'est pas mieux. Ils ont plutôt une allure de croisés en costume de baseball. Ils adorent le dieu seul. Bon, deux soldats de orange et mitraillite sont en fait des athées infiltrés qui se retrouvent parents par hasard. Bon, en fait, c'est vrai qu'on n'arrive pas vraiment à capter l'enjeu. Les flashbacks ne nous éclairent absolument pas. Travis Fimmel, qui était un ragnar absolument captivant dans Viking, est au bord de la folie et de la dépression. Je crois qu'il a compris que le scénario était nul. Pourtant, ce combat, a priori, entre les différentes croyances, est un sujet qui est éminemment moderne et intéressant, mais on est perdu dans une guerre idéologique intergalactique où le prologue n'en finit pas. Hein. On a un conflit franchement simpliste entre athées et croyants, pas de tension, pas de suspense, sauf quand ils sont confrontés à une sorte d'araignée géante en carton-pâte. Une musique fantomatique et douloureuse, à l'image du récit, qui bascule par moments dans le conte maléfique. On a une idéologie qui ne va nulle part et bon, on sent qu'il y a quelque part une civilisation qui a été enterrée. Bon, on ne sait pas où. Et moi, j'ai lu quelque part un critique qui remarquait qu'on avait la sensation d'avoir atterri dans un reboot futuriste de la vie de Brian. Et franchement, ce n'est pas un compliment.
Non, franchement, mais je me sens beaucoup moins seul grâce à vous, chère Christine. Benoît et sa chemise bûcheron, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure.
Voilà. Alors, je partage quelques points de vue de Christine, pas tout. Moi, je trouve que l'esthétique, justement, ce côté béjasse ou béjâtre, je ne sais pas comment tu as dit. Moi, je l'aime bien. Enfin, je trouve ce bleu gris, je le trouve assez intéressant. Voilà, esthétiquement. J'aime beaucoup l'allure des androïdes androgynes. Je trouve ça...
ils ont tout aplati.
Hein. Ouais, non, mais je trouve que c'est intéressant. D'ailleurs, on pourrait faire un jeu de mots avec androïde, androgyne. Enfin, il y a quelques androgynes, il y a quelque chose à faire autour de ça. Ça, j'ai plutôt aimé cette ambiance-là. J'ai plutôt bien aimé aussi l'idée de départ. Et c'est peut-être pour ça qu'après ça dérape, à mon avis, et en mal, c'est que l'idée d'en faire peut-être une série familiale au départ aurait pu être passionnante à voir. En fait, je trouve qu'ils vont très vite. Tout ce qu'il y a dans le premier épisode aurait dû être la première saison. On aurait dû voir juste se concentrer sur ces deux robots qui doivent devenir parents. Alors certes, parce que c'est la figure de Joseph, Marie, qui enfante du petit Jésus, hein, grosso modo. Parce que c'est pas eux les parents, hein, c'est Dieu qui est le parent du petit.
Donc c'est ça, on a très vite compris. Immaculée conception.
Voilà, on a très vite compris. Et le problème, c'est que en rajoutant là-dessus tous ces combats de guerre de religion, ça finit par aplatir le tout et à devenir inintéressant. Alors qu'au départ, il y a quand même quelque chose, moi, qui m'a intrigué.
Marianne Lévy.
Alors moi, je suis totalement team Christine A sur Raised by Wolves pour essayer d'égaler votre accent inégalable, Xavier.
Ne faillotez pas, ou en tout cas dans les limites du raisonnable.
Je suis en mode faillotage, c'est bientôt Noël, j'attends mes cadeaux. Donc, pour moi, les gros thèmes de la semaine sont tambouille, déstructuration et copiage. Ça donne du bon, du sans-saveur ou pire, de l'indigeste. Et en l'occurrence, avec Raised by Wolves, ça donne de l'indigeste. On y vient pour Ridley Scott et Blade Runner, mais on y reste pour Richard Anconina et La vérité Sigement. Je sens que je vais vous intriguer.
Là, va falloir un petit supplément d'explication, peut-être.
Enfin, pour l'une des répliques cultes de La vérité Sigement, il faut toujours laisser sa chance au produit. Ben moi, je lui ai laissé sa chance. 52 minutes, ça fait tout de suite un peu longuet quand la révélation ne survient pas. Chez moi, la magie n'a pas du tout opéré, comme à l'image de Christine. J'ai vu de la sci-fi sous une tonne d'aspartame, sous une tonne de dollars aussi d'ailleurs. J'ai senti que la série ratissait large, qu'elle piochait dans tous les succès de ces dernières années. Si on le prend comme un jeu de piste, ça peut être sympa à regarder. Hein. J'ai reconnu du Leftovers avec l'histoire du deuil et de
la religion, voilà. Absolument.
Également, d'ailleurs, à propos de la religion, The Handmaid's Tale. Mm-hmm. Il y a dans ces espèces de tenues et de symboles là, qui sont portés.
La servante écarlate, voilà.
Pardonnez-moi.
Non, mais tout va bien.
Je travaille mon anglais parce que je me dis que Santa Claus...
You're very well, mais voilà. It is in case of.
Voilà. Donc, je mise à la fois sur le Père Noël et Santa Claus. Donc, j'essaye, ouais, par tous les biais, d'avoir beaucoup de cadeaux, Xavier Lerp. Et je essaie de me reconcentrer. Et Game of Thrones, dans certaines scènes d'action, parce qu'il y a des casques. Alors, on voit le truc un peu opportuniste qui va piocher là, quelque chose par-ci, quelque chose par-là, pour constituer un tout qui va séduire le plus grand nombre. Mais moi, ça m'a surtout ennuyée profondément. La force de la science-fiction, c'est quand même de parler de demain pour parler d'aujourd'hui. Et moi, je trouve que cette série, elle nous parle surtout d'hier. Hein. Et finalement, elle nous livre rien de nouveau, que du vieux. Et Ridley Scott, ce qu'il nous livre, lui, c'est un divertissement un peu bourrin, qui fait commerce des pulsions primaires et des coupes au bol.
Ce qui, dans l'absolu, pourrait être une super définition, ça donnerait presque envie. Mais hélas, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Je suis terriblement d'accord avec vous trois. Parce que Benoît qui nous a dit non, mais moi je vais défendre un tout petit peu, on n'a pas vu la défense.
Si, un petit peu, non, c'est juste dommage que Ridley Scott, qui a été un très bon producteur de série, qui sait ce que c'est que la mécanique de série, là, n'ait pas compris ce qu'il pouvait en faire de son projet.
Eh bien, c'était Raised by Wolves, ouf, c'est fini sur Warner TV. À noter qu'une deuxième saison est en cours de production.
Aïe.
Oui, je suis d'accord. Spotlight. Liam Bailey est né au début des années 80. Liam Bailey perpétue la mémoire musicale du reggae jamaïcain, on vient de l'entendre, en le colorant d'un zeste de groove et de ballade Jay-Z. Un artiste qui, après avoir travaillé avec les plus grands, dont Amy Winehouse, c'est quand même pas rien, sort enfin son album solo Angel Dust et signe d'emblée, en ce qui me concerne, un classique du genre.
France Inter. Une heure en série.
Un petit conseil littéraire, Mother Code de Carol Stevers aux éditions Bragelonne, une nouveauté dans la parfaite continuité de la série que nous venons d'évoquer et de massacrer, faut dire un petit peu les choses telles qu'elles sont. Nous sommes au milieu du 21e siècle, l'humanité est à la veille de disparaître, je vais finir par avoir raison quand même, hein. Son ultime espoir, placer des embryons génétiquement modifiés dans les cocons de robots maternels. Dès les premières pages du récit, nous faisons la rencontre de Kai, un jeune garçon ayant donc été élevé par une mère machine dotée d'une intelligence artificielle dénommé Code Mère. Mais comme toutes les autres mères robots, elle développe un comportement qui inquiète les gouvernements. Ces derniers exigent la destruction de ces mères de substitution. Kia se conformera-t-il aux ordres ou choisira-t-il de désobéir et sauver le seul modèle maternel qu'il n'a jamais connu? En parallèle de cette tragédie du dilemme où le récit s'interroge sur ce qui constitue l'instinct maternel, Carol Stevers remonte la chronologie de l'apocalypse ayant entraîné la quasi-disparition de la race humaine et fait des scientifiques et de leur folie démiurge les coupables de notre extinction. Un pur roman de fiction scientifique, premier pas particulièrement affirmé en littérature d'une biochimiste de formation. Une fiction humaniste et inquiète, on y parle d'ARN messager, comme pour l'actuelle pandémie, en forme d'implacable réaction en chaîne, écrite avec la rigueur méthodologique du premier métier de son autrice. Un coup d'essai plus que prometteur, Mother Code, de Carol Stevers, paru aux éditions Bragelonne. C'est le deuxième débat The Wilds, une série américaine diffusée actuellement sur Prime. Depuis même le 11 décembre, pour être extrêmement précis, diverses jeunes filles venues d'horizons différents sont interrogées une par une par deux hommes dans un austère bureau. Elles reviennent sur une récente et traumatique expérience. Elles se sont en effet toutes retrouvées sur une île déserte après le crash de l'avion où elles avaient pris place. Un confinement de l'extrême, certes à ciel ouvert mais pas moins anxiogène. Mais sont-elles vraiment seules sur cette île comme elles le croient ou sont-elles les cobayes d'une étrange expérience comme le suggère la fin du premier épisode? Et quel lourd secret portent-elles et quelles sont les raisons enfouies dans leur adolescence qui pourraient expliquer qu'elles aient été choisies pour cette mystérieuse expérience?
Je ne veux pas dire que ce qui nous est arrivé n'était pas traumatisant. Atterrir où on a atterri, au milieu de nulle part, complètement coupé des vies qu'on avait laissées derrière. Ce qui nous amène à la question qui nous intéresse tous au fond. Qu'est-ce qu'elles avaient de si grandiose et si merveilleux, les putains de vies qu'on y avait? I feel
broken. Mayday, mayday, mayday! Les deux moteurs sont à l'arrêt! On tente un interstage!
On est coincés ici.
On est au 21e siècle, les filles. Ils vont nous trouver.
Ma vie est tout là-bas, à des millions de kilomètres d'ici, d'accord?
Quel genre de personne voit une île remplie de filles perdues et n'en voit pas trop fort?
Votre fille a commencé la remontée d'un sombre précipice.
Parfois, je me sens coupable d'avoir dû mentir à notre fille.
The Wilds, une série construite sur plusieurs temporalités et de nombreux flashbacks, écrite par Sarah Thrasher, qui était autrice sur Daredevil. Une série écrite à la suite d'un chagrin d'amour éprouvant, ce sont ses propres mots, et qui s'intéresse selon elle aux difficultés d'être une jeune fille aux États-Unis, avec entre autres Sophia Taylor Ali, Erana James, Shannon Berry et la toujours impeccable Rachel Griffiths. Benoît, un casting 100% féminin, c'est pour vous ça?
Oui, et ça a été vraiment ma très bonne surprise cette semaine. Je m'attendais à rien en fait en me lançant dans cette série. Je pensais voir une ressucée de Lost fait pour les ados. Et en fait, j'ai vu beaucoup plus que ça. J'ai vraiment vu la rencontre improbable entre Lost d'un côté pour l'île déserte, ses personnages qui se crachent dans l'avion, et de l'autre côté Angela, 15 ans, pour l'adolescence racontée à hauteur d'adolescent. Ce que j'ai trouvé assez pertinent dans ces allers-retours justement, c'est que dans Lost tout de suite, on avait donc des allers-retours, on voyait ces personnages dans leur vie avant le crash. Là, on les voit à ce moment-là dans leur adolescence, et plutôt que d'être dans du grandiloquent, on est vraiment dans le quotidien, presque dans les la série presque obligée. En fait, on coche les cases de la série pour teen, mais de façon très très subtile, je trouve, et très fine. Et les allers-retours se font de façon vraiment de façon réussie. J'adore la musique qui accompagne le tout, et surtout très vite, alors qu'avec ce genre de série, on pourrait être comme dans les émissions genre Survivor, en train d'être les spectateurs d'une télé-réalité. Là, on vit avec eux. Et moi, j'ai vraiment été agacé avec elle. J'ai beaucoup ri aussi avec elle, parce qu'il y a des moments aussi où c'est extrêmement touchant et drôle. Et puis le mystère est là. Mais ils sont suffisamment malins pour ne pas nous faire lanterner longtemps. Ils nous révèlent plein de choses, ce qui nous permet d'être vraiment au cœur d'un autre type de récit. Et ce récit-là, je le trouve passionnant, c'est celui de comment ces jeunes filles sont là pour, en fait, expérimenter quelque chose qu'elles vivent au quotidien dans cette Amérique, c'est-à-dire comment lutter contre le patriarcat et peut-être en tirer les leçons. Voilà. Et ça, j'ai trouvé ça assez passionnant à suivre. J'ai vu les 10 épisodes vraiment en binge-watchant, en bon français.
Absolument.
Et j'attends avec impatience la suite.
En les regardant d'affilée. Alors, Marianne, vous nous parliez tout à l'heure d'un programme où les séries que nous allons évoquer piochaient dans énormément de succès récents. C'est quand même très clairement aussi le cas de The Wilds.
Oui, alors je voudrais juste rajouter un cadeau sur ma liste Père Noël. S'il vous plaît, Père Noël, offrez-moi les mêmes lunettes que Benoît Lagan l'année prochaine, parce que je voudrais être encore plus adopter sa positive attitude. Je me sens très méchante ce soir.
Vous n'êtes pas seule, je vous rassure. Cher Père Noël, deux père, une pour moi, une pour moi.
Oui, parce que là, il y a eu effectivement énormément d'emprunts, et puis surtout, là, je trouve qu'on passe au menu de Noël sans odeur ni saveur. Un teen drama, ce qu'on nous propose, c'est un teen drama noyé sous l'eau tiède, une bande d'ados insupportable, un crash d'avion, une île. Même en faisant des efforts surhumains, effectivement, comme dit Benoît, on est obligé de penser à Lost. Voilà. Et puis moi, ce que ça m'évoque aussi, c'est Gossip Girl, hein, cette série pour teen où voilà, les gens sont atroces et passent leur vie à régler des comptes via les réseaux sociaux. Cela dit, je trouve que c'est un cas d'école intéressant parce qu'elle nous apprend comment on peut faire le max avec rien. Elle illustre combien les auteurs américains sont des petits malins. Ils savent composer avec le vide, épaissir. Une fois encore, la magie de la déstructuration opère, hein, avec ses allers-retours permanents entre l'île et la vie, l'expérience de chacun des ados. Le montage sert de puissant cache-misère. Le tout est de bien choisir sa cible. Ici, les ados et leur névrose. Être un ado dans une Amérique normative, et juste l'enfer à vivre, rappelle un des personnages. J'ai envie de dire que être un adulte devant une série pour ados qui est aussi plate que celle-là, c'est pas facile non plus.
Vous êtes consciente que pour mériter le passage du Père Noël, il faut être un peu gentil, Marianne. Et là, c'est pas la peine de lui adresser des suppliques si vous êtes aussi méchante. Christine, qui a la gentillesse même, évidemment.
Vous me connaissez bien.
The Wilds, les sauvages. C'est vrai,
pour moi, on est dans un contexte qui se propose de faire la démonstration inverse de Sa Majesté des Mouches, hein, le film, le livre, etc. De Peter Brook, où l'avion s'incrasait dans une île du Pacifique avec pour seul survivant des écoliers anglais, des garçons, qui donc livraient à eux-mêmes basculer dans une organisation tribale, sauvage et violente. Et donc au pessimisme de cette œuvre s'oppose l'optimisme déclaré de la directrice de ce programme expérimental dont vous parlez. Et donc pour elle, là où les hommes vont en cas de survie s'affronter et se détruire, les femmes vont s'ouvrir à l'introspection, au dépassement de soi, à la découverte des autres, en dehors de leur milieu social habituel. Tout ce qui les séparait dans leur vie d'avant va les rapprocher pour pouvoir s'en sortir. On est vraiment dans un discours féministe fermement ancré dans la réalité du 21e siècle, et passer le côté Koh-Lanta de l'affaire, comment faire du feu, trouver de l'eau, vivre sans sa brosse à dents, on est vraiment dans l'ambiance pour découvrir des adolescentes qui, d'une manière ou d'une autre, sont présentées comme vraiment les victimes d'une société patriarcale. Alors, elles sont sous-estimées, abusées, maltraitées, manipulées, pas à la hauteur des attentes de leur famille, pas aussi belles, talentueuses, intelligentes qu'elles le souhaitent. Chacune, en fait, est représentative d'un groupe social, sexuel, ethnique, religieux. Chacune veut désespérément être la meilleure version d'elle-même. Alors, c'est vrai que certaines sont plus intéressantes que d'autres. J'ai un peu de mal avec la perpétuelle angoissée parce qu'elle est, quand elle était petite, son poisson rouge tentait de se suicider. Bon, mais même quand elles font les mauvais choix et qu'on a envie de hurler, on s'attache quand même à ces jeunes filles qui sont très bien interprétées dans un récit qui quand même est plus sombre qu'on ne l'imaginait au départ. Il est vraiment question de désordre nutritionnel, d'abus sexuels, d'oppression religieuse, de tentatives de suicide, mais aussi de doutes de rêves, de quête de soi, de désir d'être aimées telles qu'elles sont. Tout ça sont des problématiques des adolescentes d'aujourd'hui. Je trouve que c'est assez touchant.
Merci beaucoup, chère Christine. Non, c'est pas la peine de me demander un reliquat de temps de parole. Cher Benoît, vous n'avez pas été assez sage, donc ce sera pour l'année prochaine. The Wilds, une série américaine diffusée sur Prime depuis le 11 décembre.
Phénoménal, à quelle histoire, c'est pas si mal, y'a plein d'effets, le cordon n'effraie personne qui touche la terre, t'en vas pas mon règne, dur à l'air somme, l'heure n'a pas bon maître, l'être que perdent les âmes qui font le rêve, les autres perdent. Tout ce qui reste et j'en ferai un tableau. Et j'ai le sourire aux lèvres, le ventre adore la guerre. Mais mon cœur je ne respire plus. Regarde-moi comme avant, le sceptre et pas la main. La peur c'est la paix qui dure. Quelle riche ça, t'en vas pas mon rêve, dur à l'air somme, l'heure n'a pas bon maître, l'être que perdent les âmes qui font le rêve, les autres perdent un magot, je prendrai tout ce qui reste et j'en ferai. Et j'ai le sourire aux lèvres, le ventre adore la guerre. Mais mon cœur, je ne respire plus. Regarde-moi comme avant, le sceptre et pas la main. La peur, c'est la paix qui dure. J'ai le sourire aux lèvres, le ventre adore la guerre. Mais mon cœur, je ne respire plus. Regarde-moi comme avant, le sceptre et pas la main. La peur, c'est la paix qui dure.
Merveille par Zed Youn Pavarotti, un jeune rappeur stéphanois de 23 ans, que Muriel Pérez, qui chaque semaine programme musicalement cette émission, définit avec une très belle subtilité. Je vais donc lui emprunter ses mots. Si son écriture est sincère, imagée, poétique et crue, sa musique est plus singulière, mêlant guitare et autotune, sonorités urbaines et acoustiques, le tout fait de lui un nouveau genre de héros, au sens médiéval du terme, du quotidien, une rockstar de rap telle qu'aurait pu l'imaginer Tim Burton.
France Inter. Une heure en série.
Et c'est l'heure de l'effet miroir ou l'actualité racontée par une série, un épisode, un personnage ou une scène culte. Et quelle est l'actualité brûlante du moment? Mais bien sûr, c'est Noël. Et pour cet effet miroir d'avant justement Noël, vous avez décidé, cher Benoît, de vous arrêter sur un épisode de Noël donc,
ben oui,
d'une grande série télé qui va nous entraîner confins de notre imagination.
Effectivement, Xavier, au moment où l'on invite les familles à freiner leur rencontre en fin d'année, mais qu'on les incite à consommer, retour sur un épisode de Noël qui critique le consumérisme et la politique des grands magasins. Je vous raconte. Nous sommes quelque part dans une ville américaine, à une époque où les bars et les restaurants avaient encore le droit d'être ouverts, vous voyez. Pendant qu'un homme, apparemment abattu aux zincs d'un vieux pub, s'enfile des verres de mauvais whisky, non loin de là, dans un grand magasin, des privilégiés s'impatientent. Il faut dire que nous sommes en 1960 et qu'ils n'ont pas encore accès à Internet et au click and collect. Dans ce grand magasin, l'homme est attendu pour jouer au Père Noël à 18h30 précise. Or, il traîne un peu des pieds au bistrot du coin, il n'a pas envie de sourire et de faire semblant d'apprécier des enfants trop gâtés et des parents qui ont les moyens de consommer de l'inutile. Notre homme, fatigué de voir tant de richesses accumulées et tant de demandes d'enfants insatisfaits, au début de l'épisode, se noie alors dans un dernier verre, seul face au barman.
Pourquoi qu'il n'y a pas de vrai Père Noël sur la Terre ? Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi que le Père Noël, c'est des histoires? Faudrait qu'il existe pour eux.
Eh, hey, tu me prends pour qui? Moi, je suis pas un philosophe, hein?
Louis, le philosophe dans cette série, c'est Rod Serling, type élégant qui introduisait chaque épisode de la quatrième dimension.
Ce monsieur s'appelle Henry Corwin. Dans sa vie, il a fait un peu de tout et rien de particulier. Un peu clochard, un peu philosophe. Ce soir, il est le Père Noël dans un grand magasin. Mais dans un moment, Monsieur Henry Corwin va entrer dans un étrange univers, un pays étrange situé bien au-delà du pôle Nord, un pays qui peut être le pays de l'esprit et de la démesure. Ce pays qui ne peut être situé nulle part se trouve dans la quatrième dimension.
Et cet épisode, diffusé il y a 60 ans tout juste, un 23 décembre 1960 sur CBS, s'appelle « Dans la nuit de Noël » et c'est donc le titre de l'épisode. Rod Serling nous raconte l'histoire de cet homme qui aimerait être autre chose qu'un Père Noël de bazar. Vous imaginez bien la suite. Ivre, le pauvre Henry Corwin est jeté à la rue par le patron du magasin. Heureusement, la magie n'est pas loin et Corwin, dans le froid, à la rue, découvre qu'un sac magique est tombé à ses pieds et ce n'est pas un drone d'Amazon qui le lui a livré. Ce sac contient tout ce que chaque humain peut rêver de recevoir et Henry Corwin, l'homme de la rue, avec son costume de Père Noël à de Francis Sou et sa barbe de Père Noël de pacotille, devient l'homme qui fait des heureux chez les miséreux. Henry Corwin rend justice à l'esprit de Noël, mais voilà, l'heure du couvre-feu et le sac magique est vide. Corwin a fait des heureux, mais n'a pas pu s'offrir un seul cadeau.
Mais tu n'as rien eu. Tout pour toi, c'est pas très juste.
J'ai rien, non. Je crois que c'est parce que j'ai envie de rien. La seule chose que j'ai voulu pendant des années, c'est pouvoir donner des choses à ceux qui n'ont jamais rien. Et ce soir, je crois que j'ai réussi à le faire un peu. J'ignore par quel mystère ça s'est fait, mais ça s'est fait, c'est tout. Oui, ça s'est fait. Et je voudrais que ça recommence chaque année. Ça serait un beau cadeau.
Ça, oui, alors.
Joyeux Noël. Que le ciel te protège.
Bon Noël pour toi aussi, Henri. Et encore merci. Merci pour les cadeaux. Merci.
Y a pas de quoi.
Et c'est ainsi qu'Henry Corwin, petit Père Noël des pauvres, devient le véritable Santa Claus. Un 23 décembre 1960, en entrant dans la quatrième dimension, plutôt que dans un grand magasin. Joyeux Noël.
Merci beaucoup Benoît pour ce très joli cadeau de Noël avec un petit peu d'avance. Un effet miroir, une chronique que vous pouvez réécouter en podcast ou dans quelques heures en rediffusion. Vous êtes bien sur France Inter, dans une heure en série, avec ce soir Marianne Lévy, Christine Haas et Benoît Lagane. Troisième et dernier débat de cette soirée, El Embarcadero, une série espagnole de 2 saisons à ce jour, disponible en DVD chez ESC Éditions et également diffusée sur Salto. Pour ce débat, nous allons uniquement nous concentrer sur la première saison, si vous le voulez bien, de ce thriller amoureux reposant sur le fameux proverbe « Qui a 2 femmes, perd son âme, qui a 2 maisons ». Perd sa raison. Tout avait pourtant bien commencé ce jour-là pour Alejandra. Elle venait de signer avec son amie et collaboratrice de toujours le faramineux budget pour la construction d'un building, point d'orgue de sa carrière d'architecte. Elle venait d'avoir au téléphone Oscar, l'homme de sa vie, retenu en Allemagne, mais impatient de fêter cette bonne nouvelle avec son épouse. Mais le bonheur, on sait, n'a qu'un temps. Réveillée au beau milieu de la nuit par un coup de fil, Alejandra apprend que son mari est décédé et qu'il n'a en réalité jamais quitté le territoire espagnol. Point de départ d'une révélation de la seconde vie d'Oscar, homme aux nombreux secrets, amoureux d'une autre femme et surtout père d'une petite fille de 8 ans.
Ahora entiendo por qué Oscar nunca se fue de aquí. Se quedó dando vueltas como un planeta.
Creo que empieza a sentir lo que sintió Oscar. Aquí en el fondo somos animales salvajes.
Me he dado cuenta de que en realidad no tengo ni idea de quién era.
¿Usted cree que Oscar podía tener otra amante?
Y ha tenido que morirse para que me dé cuenta del peso tan grande que llevaba a la espalda.
Llevo 8 años cayéndome al vacío, joder, que no recuerdo quién era. ¡No sé quién soy! ¡No sé cuál es mi casa!
Oscar no se suicidó.
Oscar ne s'est pas suicidé. El Embarcadero, parce que je parle très très couramment l'espagnol, est une série créée par Esther Martinez Lobato et Alex Pina, créateurs entre autres de El Barco et surtout de la
Casa de Papel.
Bien sûr, avec dans les rôles principaux Alvaro Morte, justement, qui était au générique de la Casa de Papel, Veronica Sanchez, ainsi qu'Irene Arcos, que l'on a vu dans la série L'autre côté, actuellement diffusée sur Netflix. Marianne.
Et ben
deux
voilà.
Femmes, 2 maisons, un univers. On pense évidemment à plein de séries, mais je vous charge de disséquer celle-ci. Quelle est votre opinion sur El Embarcadero? Est-ce qu'elle va aimer quelque chose ce soir? C'est un mystère!
C'est mon moment gentillesse. El Embarcadero, c'est du bon. La recette est pourtant très simple, hein, du telenovela saupoudré d'un gros sachet d'arsenic. La série nous propose une revisite du triangle amoureux, mais la revisite est ultra efficace grâce à son montage diabolique et un montage qui est redoutable. Et peut-être il faut prévenir les auditeurs pour le bon fonctionnement des pacemakers. El Embarcadero, je suis vraiment très nulle en espagnol, c'est un peu la rencontre entre 24 heures chrono et The Affair. De la première, elle emprunte le côté haletant, hein. Ça démarre à 1000 à l'heure, ça joue à fond les rebondissements improbables. De la seconde, elle pique le sujet. Elle propose le même genre de voyage dans le couple. Elle se demande comment un mariage peut résister au temps qui passe. Que sait-on finalement de l'autre? Des questionnements qu'elle a corsés à la sexiness hispanique, grâce à une réalisation ultra charnelle qui colle au sujet comme les robes à la peau de ces splendides héroïnes.
C'est vrai que ça donne chaud. Hein.
La série est portée par un ensemble de comédiens ultra habités. On frémit avec eux, on étouffe avec eux, on succombe avec eux. Mais sa force est aussi sa faiblesse. Hein. El Embarcadero est un peu surchargé en intrigue, à mon goût. Mais on lui pardonne, car elle offre de très beaux portraits de femmes de toutes les générations et surtout une splendide façon de filmer l'intime.
Christine, avez-vous été sensible à cette calore?
Oui, j'étais assez sensible. C'est vrai qu'on pense beaucoup à The Affair, hein, le mélange conséquence d'une relation extra-conjugale et le genre familial, l'enquête policière, etc. Et de la même manière, ici, le clivage social est l'un des fils conducteurs de la série. Le héros est partagé entre le mode de vie bourgeois bohème, la ville, la campagne, le monde horizontal, libre et sauvage de sa maîtresse, vertical, sophistiqué, normatif de sa femme. Et en fait, on est vraiment dans un soap de luxe avec une ambiance sulfureuse et romanesque. Le problème pour moi, c'est que le sexe est quand même l'unique mode d'expression des protagonistes, debout, assis, couché, sur la moto, dans la nature, sous la douche, seul, à 2, à 3.
Ça ne me dérange pas.
Moi, un peu. Les femmes sont très belles, très sensuelles, très à l'aise avec leur nudité, comme souvent dans les séries espagnoles. On suit leur parcours libérateur, un peu comme Thelma et Louise, pas suicidaire, qui se réinvente au fur et à mesure. C'est vrai que le parc naturel d'Albufeira fait office de paradis perdu. Véronica apparaît telle une Ève tentatrice qui va représenter à la fois le mari et la femme, c'est le lieu qui va attirer, autant que le personnage. Et pour moi, certaines émotions sont quand même un peu surjouées. On a beaucoup de scènes où les femmes sont habillées, déshabillées, courent sur la plage, s'arrosent, dansent dans une boîte de nuit, jouent avec la petite fille, se caressent, font l'amour, rient à gorge déployée. Bref, on ressasse quand même beaucoup les mêmes scènes en apportant assez peu d'informations supplémentaires, juste parce que c'est joli, parce qu'il fait beau et qu'elles sont belles. Donc, c'est ce côté remplissage, moi, qui me dérange un tout petit peu et qui pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Peut-être dans la deuxième saison.
Peut-être dans la deuxième saison. Benoît Lagan, ces femmes espagnoles court vêtues, on va dire, vous ont-elles séduit ?
Oui, moi j'embarque pour El Embarcadero complètement. Je suis plus donc de l'avis de Marianne et je trouve que justement ce côté charnel de la réalisation fait beaucoup parce que justement il y a tellement de séries qui montrent de la sexualité gratuite pour rien dire, soit esthétiquement, soit par rapport au récit. Et là, je trouve qu'ils arrivent de façon très maligne à ce que ça nourrisse le récit, la psychologie des personnages, tout en étant quelque chose de gros malin, qui fait qu'on est devant son téléviseur, sans avoir l'impression d'être voyeuriste, mais d'être vraiment avec eux. Moi, je suis littéralement amoureux de tout le monde. J'aimerais, à la fin de cette première saison, je vous dis, mais oui, mais moi aussi, je veux faire de la moissonneuse-batteuse avec un flic moustachu, par exemple.
Ça n'engage que vous, mais pourquoi pas. C'est vrai que la figure du triolisme, quand même, du couple à trois, elle est très récurrente dans la série.
Et puis, alors, il y a la dimension thriller qui est assez classique, somme toute, mais qui fonctionne bien parce qu'on a envie de savoir
qu'est-il arrivé,
arrivé à Oscar. Et la série est vendue comme la série avec El Profesor, enfin le professeur de La Casa de Papel, puisque c'est le comédien qui joue Oscar, qui joue le professeur dans La Casa de Papel. Et en fait, non, c'est vraiment la série sur ces deux femmes, Alejandra et Veronica. Et moi, je suis tombé vraiment sous le charme. Et en fait, j'ai fini par être dans la place d'Oscar. C'est-à-dire que quand on regarde cette série, on se dit, mais oui, on sait pourquoi on aime deux femmes, et pourquoi on aime ces deux femmes, et pourquoi on les aime précisément parce qu'elles sont très différentes, mais que toutes les deux apportent quelque chose de fort et de tendre. Voilà, et c'est ça que j'ai aimé suivre dans El Embarcadero. J'attends la saison 2 avec impatience. Là, je suis prêt à regarder tout de suite.
J'espère que votre épouse n'a pas écouté l'émission, n'est-ce pas ? Parce que cette déclaration entre l'amour avec un camionneur, ou je ne sais plus trop quoi, et le fait d'aimer deux femmes, on pourrait peut-être mal l'interpréter. Voilà, mais qu'elle se rassure. Alors la deuxième saison, justement, elle est dans le coffret DVD sorti chez ESC Édition. Et nous avons parlé de El Embarcadero, une série espagnole que vous pouvez également voir sur Salto.
Piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siento tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también, piensa en mí cuando quieras. Quiero para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores. Bien.
cuanto quieras quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti.
Piensa en mi par Luis Casal, Talon aiguille, le film de Pedro Almodovar a immortalisé ce titre langoureux, un mélo musical sublimé par la voix de Luis Casal qui la porte au sommet d'une sensualité déchirante.
France Inter, une heure en série.
Allez, plus que quelques dodos avant Noël et vous avez encore le temps de vous masser dans les grands magasins, hein, sans distanciation sociale, puisque c'est impossible vu le nombre de personnes qui s'y pressent. Mais quelques conseils, en tout cas, pour, je ne sais pas, aider quelques parents qui voudraient faire plaisir à leur fils ou à leur fille sérifile et sérivore. Benoît Lagan, vous avez encore un jeu pour nous.
Oui, parce qu'une heure en série, c'est à 20h. Alors, je vous propose à nouveau ce soir un jeu de 20h. Et le jeu que je vous propose de glisser sous le sapin, c'est un peu Friends, le jeu Friends. Je me suis lancé dans une chanson que j'aurais pas dû. Le jeu Friends,
un petit peu d'avance quand même sur le réveillon. Hein.
Édité par 404 éditions, c'est un jeu de plateau, donc logique pour un jeu sur une série tournée en studio. Hein, vous me suivez, Xavier. Voilà. C'est une sorte de jeu de loi avec des cases de couleurs, un sablier, un dé. Alors si vous tombez sur la case bleue, vous avez des questions par exemple sur les garçons de Friends. Si vous tombez sur une question rouge, c'est sur les filles de Friends. Du genre, dans quel grand magasin Rachel a-t-elle travaillé? Alors, réponse par exemple, les filles, dans quel grand magasin? Non, vous savez pas. Bon, ben c'est Bloomingdale. Voilà, bon, vous avez perdu la carte. Ben voilà, vous passez votre tour. Si vous tombez sur une case verte, c'est des questions Central Perk. Grosso modo, c'est sur les voisins ou les invités des Friends. Donc avec une question du style, quel aspect de Janice est le plus agaçant dans Friends?
Oh my God!
Par exemple, où sont? Rire. Voilà, très bien, vous le faites très bien. Et puis alors, il y a des questions...
J'ai quelques talents cachés.
Voilà, des questions jaunes autour de la love story, des questions oranges autour des répliques cultes, et enfin, mes préférés, les cartes violettes, ce sont les gages du genre il faut qu'en sifflant ou en fredonnant uniquement, je fasse deviner quelque chose. Donc par exemple, si je fais...
On l'a revient bien sûr,
bon, d'accord, Smellycat. Voilà. Bon, ben, je vais rejouer avec ma fille.
Je vous l'avais dit de faire attention. Merci beaucoup, cher Benoît, pour ce coffret jeu Friends. Christine, oui. Un classique, mais pas n'importe lequel, ouais, en DVD, l'intégrale des séries produites et réalisées parfois par Alfred Hitchcock.
Ouais. Elephant nous propose absolument tout ce qu'Alfred a fait pour la télévision. Hein, que on a les saisons.
C'est Alfred, vous avez c'est Alfred Hitchcock. Intime à une époque.
On a les saisons 1 à 7 de la série Alfred Hitchcock présente, soit 265 épisodes réalisés entre 1955-1962. On a les saisons 1 à 3 des inédits, soit 93 épisodes réalisés entre 62 et 65. Bon, cette anthologie de récits autonomes révèle quelques petits bijoux de tension, des histoires retorses et cruelles dont certaines préfigurent deux futurs films, comme Faux coupables, Vertigo ou Psychose, hein, sorti en 1960 et qui au départ était destiné à la télévision, sera d'ailleurs tourné en noir et blanc, avec un petit budget, sur un terrain abandonné des studios Universal, et avec Vera Miles, qui fait partie de la longue liste de stars du grand et du petit écran qu'on va redécouvrir ici. Alors, il y a John Cassavetes, Gina Rowlands, Charles Bronson, James Coburn, Betty Davis, Roger Moore, Steve McQueen, Burt Reynolds, Robert Duvall, Peter Falk, Robert Redford, il y en a une flopée. C'est vrai que ce nouveau terrain de jeu inspire le maître du suspense, qui, s'il ne réalise pas tous les épisodes réunis autour de lui, de grands réalisateurs, hein, là encore on a Altman, Pollack, Friedkin, de grands auteurs qu'il adapte comme Bradbury, Woolrich, Roald Dahl ou Philip Roth. Les univers sont très variés, mais chaque épisode est présenté par Hitchcock avec sa fameuse silhouette, hein, vous savez, en ouverture accompagnée de la marche funèbre d'une marionnette de Gounod, et on le retrouve à la fin en leitmotiv, toujours avec son ironie mordante, il faut absolument redécouvrir.
Excellent conseil, c'est chez Elephant, voilà. C'est tout Alfred Hitchcock pour la télévision. Marianne, vous embarquez pour l'espace.
Oui, alors un petit conseil de lecture à destination des ados, hein, ou des grands ados, ou des Benoît Lagan.
Les éternels ados.
Voilà. Star Wars, tout l'art de The Mandalorian, de Phil Sostak, chez Huggins and Mumin. Comme son titre l'indique, il nous entraîne dans les coulisses de la série. Phil Sostak, c'est le directeur artistique de Lucasfilm depuis 2008, donc il connaît un peu son sujet, on peut lui faire confiance. Dans le livre, il dévoile tout le travail des créatifs. Et en 256 pages, je vous promets qu'il n'y aura aucun divulgachage pour ceux qui auraient envie de se plonger dans la série.
C'est un très beau bouquin avec des croquis, des esquisses, effectivement, sur une série... Bon, un petit peu pataude, on va dire les choses telles qu'elles sont, mais enfin, en tout cas qui va prolonger le plaisir de tous les Star Wars au fil de découvrir effectivement les coulisses. Quant à moi, un petit conseil, c'est aux éditions Grund, The Crown, le vrai du faux. Vous savez qu'actuellement, il y a des débats en Angleterre sur la quatrième saison. Ouais, ils ont tout inventé. Peter Morgan, qui est le showrunner et l'auteur de certains épisodes, a pris des libertés avec la réalité historique. Il a bien le droit, d'abord. Et en quatre saisons, donc... Les épisodes se sont inspirés de faits réels, mais les ont romancés, réinventés. Et c'est ce que dissèque ce très bon livre écrit par trois auteurs, Corentin Lamy, Geoffrey Wickham et Pierre Trouvé, qui sont allés donc dénicher dans l'histoire la réalité et les libertés donc, qui ont été prises par les auteurs par rapport à The Crown. C'est un très bon livre qui ne va que jusqu'à la fin de la troisième saison. Mais évidemment, on prendra plaisir à lire la suite puisqu'il y a encore trois autres saisons à être décryptées pour The Crown. Donc voilà, très très bon bouquin à la fois historique, pédagogique et sérifique. Merci beaucoup pour ces très bons conseils. Si le Père Noël se plante malgré vos efforts, vraiment, on lui dira « Père Noël, vous êtes une ordure !» Et voilà, une heure en série, c'est fini. Oh, quand nous reverrons, le Noël sera passé, vous aurez été gâtés. Je n'ose imaginer dans quel état vous serez la semaine prochaine. Mille merci à vous, Marianne, Christine et Benoît, d'y avoir participé. Merci à vous toutes et vous tous de l'avoir écouté. Nous vous avons recommandé timidement Raised by Wolves sur Warner TV, un peu plus The Wild sur Prime, et complètement El Embarcadero en DVD, donc également sur la plateforme Salto. La semaine prochaine, je vous l'ai dit, une émission spéciale, puisque nous vous dévoilerons le top 10 de vos séries délicieuses.
Il y aura animal.
Honteuses. Je ne peux rien dire. Vous ne pouvez pas acheter ma promesse de ne rien en dire. Demain, 20h, un masque à la plume, bien évidemment, avec Jérôme Garcin. Une heure en série, une émission à réécouter en podcast, en rediffusion dans quelques heures, dans la nuit de samedi à dimanche, à 2h. Très précisément, il y a un site internet, vous pourrez retrouver l'intégralité du programme, la playlist, nous envoyer des courriers. Une heure en série, une émission réalisée comme chaque semaine par Marie-Annick Rimbaud. La programmation musicale était assurée par Muriel Pérez. Je l'ai préparée avec Amel Caldi et à la technique ce soir, Charles Leca. Mille bises à toutes et à tous. Très joyeux Noël par avance.